On sait exactement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour élever un être épanoui. Et tout ça, grâce aux découvertes des neurosciences. Alors je me dis que ce serait vraiment du gâchis que de ne pas les partager au plus grand nombre au sein de la société. Je m'appelle Maria, je suis maman d'un petit garçon et la fondatrice de Pereski, les cartes d'éveil visibles dès la naissance et grâce aux neurosciences. Et ce que je vous propose ici, c'est justement une bonne dose de science et de connaissances, pour sortir des croyances, pour vous aider à mieux cerner le fonctionnement inouï de vos petits, pour vous apprendre à les décoder et vous soulager la vie de parents aussi. Des experts de la toute petite enfance nous partageront leurs informations solides, fiables, objectives et des repères très concrets pour accompagner au mieux ces précieux 1000 premiers jours de la vie. Sans pression, avec beaucoup de pédagogie et un brin d'empathie. Parce qu'on n'est pas parent mais qu'on le devient, je vous propose de partir à la découverte des lois naturelles de nos enfants. C'est parti! Il y a des gens qui naissent avec une vocation verrouillée au cœur et à l'esprit. Et c'est le cas de ma prochaine invitée, Dr Héloïse Junier, la plus drôle, décapante, déculpabilisante et bienveillante des psychologues du jeune enfant. Oui, elle est experte de cette discipline qui raconte notre origine, la matrice de notre humanité. Elle est passionnée par l'aube de la vie, une niche comme elle dit, car ils sont très peu à s'y intéresser en France. Ce qui lui tient tout particulièrement à cœur, c'est de comprendre l'importance et l'impact du sourire du tout-petit. Une niche dans la niche là aussi. Et elle y a consacré 5 années de sa vie. Elle est ce genre d'être humain auquel on s'attache tout naturellement, tellement elle déborde d'humanité et d'humilité, d'intelligence et d'expertise. Elle est ce genre de personne qu'on admire forcément, tellement ses combats contre les conditionnements sociétaux et au nom d'une enfance, d'une maternité et d'une parentalité plus démocratique imposent le respect. Je l'ai découverte à travers ses livres et ses BD que j'ai littéralement dévorés parce que je n'avais jamais autant ri et appris en même temps. Et quand elle m'a dit oui pour cet échange éclairé, je n'ai pas touché terre pendant quelques journées et vous allez mieux comprendre pourquoi dans un instant. Héloïse a accepté de répondre à mes questions à 1 million, de tordre le cou aux idées reçues encore bien ténues qui pèsent sur les tout-petits, d'éclairer nos blocages émotionnels et intellectuels en tant que parents, de nous décrypter les besoins et les émotions des bébés et comment les épancher, en théorie, comme en pratique. Sans oublier de mettre sur le carreau quelques dogmes et contradictions de notre société et même de nous livrer les clés pour faire dormir nos bébés. Bonjour Héloïse, je suis ravie de vous accueillir à mon micro. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation.
Avec grand plaisir.
Vous avez un parcours étonnant, pour ne pas dire étourdissant. Vous êtes la psychologue spécialiste du jeune enfant. Vous intervenez principalement en crèche, mais vous êtes aussi journaliste, auteur de nombreux livres à succès. Alors ne vous inquiétez pas, cher auditeur, je vous glisserai la liste complète en fin d'épisode pour que vous puissiez consulter ses ouvrages et ses pépites. Vous êtes aussi formatrice, conférencière, en plus d'être maman. Bref, je le disais, un parcours complètement étonnant. Alors, expliquez-nous s'il vous plaît, Héloïse, en quoi consiste votre métier de psychologue et concrètement, pourquoi avoir décidé d'évoluer plus particulièrement en crèche? Je préfère d'ores et déjà anticiper et désamorcer une question que mon beau-père pourrait me poser, à savoir en quoi un tout petit bébé pourrait déjà avoir besoin d'une psychologue à cet âge.
Alors, c'est une vraie question qui revient sans arrêt quand les personnes sont très loin du champ de la petite enfance. En fait, ce qui me plaît beaucoup dans la petite enfance, c'est déjà tout l'aspect prévention. C'est un aspect énorme. En fait, le D'accord. petit enfant construit les bases de son développement futur pendant la petite enfance, dans les premières années de la vie et surtout dans les 2-3 premières années de la vie maximum. Il pose vraiment les jalons de ce qui va lui arriver plus tard. Et du coup, je trouve intervenir à cet âge-là très plastique, très modulable, où il y a beaucoup de choses à faire, c'est très, ça a beaucoup de sens pour moi. Et en plus, en crèche, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est qu'on accompagne énormément les équipes. Hein. C'est un travail qui est très difficile auprès des tout-petits. Elles ont besoin de soutien, elles ont besoin de quelqu'un qui est là pour les prendre dans les bras quand elles pleurent, pour leur expliquer comment fonctionne tel ou tel enfant. Et donc, c'est très gratifiant. Et puis, il y a les parents aussi qui ont besoin d'aide, parce que les parents, devenir parent, c'est quand même une apocalypse. Donc là, un psychologue a aussi sa place. Voilà, c'est pour toutes ces raisons-là.
C'est passionnant, en effet, on prend la mesure de l'importance de votre métier. Alors, vous avez la particularité, en plus, de vouloir dépoussiérer le métier de psychologue grâce à votre pétillant et à votre humour déclatant.
C'est gentil.
C'est vrai, hein, que ce soit dans vos interventions ou dans vos écrits.
Oui, je suis drôle.
Ah, mais absolument, et je pense que ça nous fait du bien à tous, en fait, d'aborder ces sujets-là, justement, de manière un peu légère. Vous avez aussi une autre marque de fabrique. Vous avez cette particularité de revisiter les pratiques des professionnels de la petite enfance et même des parents à la lumière de la recherche scientifique.
Alors, oui, c'est vrai. Effectivement, c'est l'un des chevaux de bataille.
Mais pourquoi avoir adopté ce parti pris? Et qu'est-ce que la science, finalement, vous apprend? Comment elle peut aider face à un tout petit qui vient tout juste de naître?
En fait, alors, pour répondre déjà à votre première question, en France, on a une grande, grande particularité. On est très bon en vin, on est très bon en fromage, on est très bon en patrimoine culturel, mais on est très, 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 vraiment très, très, très mauvais en science. On est un des pays, en fait, il y a le plus de décalage entre les connaissances scientifiques, celles qu'on trouve dans les laboratoires de recherche, et le terrain, la vraie vie. Et donc, du coup, il y a un vrai boulot, un vrai job. Bon, je suis pas la seule à le faire en France, hein, on est quelques-uns, on n'est pas énormément nombreux non plus, on est quand même quelques-uns à faire ce job de passer le relais, de faire un lien, un pont entre les laboratoires de recherche, donc les connaissances qu'on a aujourd'hui à jour sur l'être humain, le petit et le grand, et le terrain, la vraie vie, pour faire évoluer les pratiques, pour lutter contre les idées reçues, il y a un vrai intérêt qui est très français, justement, qui est beaucoup moins le cas en Belgique, par exemple, en Allemagne, au Canada, bien évidemment, en Norvège.
J'aimerais comprendre, du coup, comment on s'explique, en fait, ce décalage, comme vous dites, entre la théorie et le terrain?
Alors là, c'est un grand sujet extrêmement sensible. Disons que je pense qu'en France, alors c'est mon point de vue personnel, mais on est le pays des traditions. Et la tradition, on y est très attaché et on a beaucoup de mal à faire avancer. Or, les anciennes connaissances sont des formes de tradition. Donc, on a du mal à faire avancer. Les universités sont pas toujours aussi dans... Voilà, des fois, elles alimentent elles-mêmes des connaissances des années 30, des années 40, qui n'ont pas été mises à jour depuis. Donc voilà, il y a ça aussi. Je pense que c'est vraiment notre culture française, en fait.
C'est très intéressant. Et du coup, pour revenir en fait à ma question principale, oui. Comment en fait la science peut aider face à un tout petit? À quoi elle vous initie?
En fait, la science, elle a énormément, énormément de connaissances sur le tout petit, sur la grossesse, sur l'impact du stress, par exemple pendant la grossesse, sur ce qui se passe dans sa tête, par exemple quand il a telle ou telle émotion. En fait, elle nous permet d'avoir beaucoup de recul et d'objectivité sur ce que le tout petit pourrait ressentir. C'est toujours du conditionnel, on n'est jamais sûr, on sera jamais dans sa petite tête, et aussi sur l'impact de telle ou telle pratique sur le futur, par exemple dans ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faudrait moins faire, ce qui est conseillé, ce qui est déconseillé. Donc, ça a vraiment énormément de... Enfin, je trouve que c'est énormément de lumière, de portes qui s'ouvrent sur le tout petit. Beaucoup plus qu'on pourrait le penser, ouais.
Je trouve que ce que vous dites est extrêmement réconfortant et on peut, d'une certaine manière, en effet, s'appuyer sur ces connaissances. Je pense que c'est même vous qui le dites à un moment dans l'un de vos ouvrages. S'appuyer sur ces connaissances, ça permet en effet de sortir des croyances et de tous ces commentaires qu'on entend, oui. Notamment lorsque l'on devient parent. Quelle aventure, en effet. Quel tsunami. Je me souviens de mes amis qui étaient capables à qualifier de cette manière-là. Par curiosité, est-ce que vous avez peut-être vous-même changé quelque chose à vos pratiques professionnelles ou peut-être même parentales suite à vos rencontres avec tous ces scientifiques que vous avez côtoyés, notamment pour écrire vos ouvrages?
Alors, en fait, j'ai eu la chance déjà d'avoir écrit pas mal d'ouvrages. Disons, j'étais assez... Oh oui. Expert de la question avant de devenir maman, ce qui m'a énormément aidée en fait.
Génial.
De cette manière, ça m'a aidée à avoir un peu de, comment dire, à savoir un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire. Et d'une autre manière, d'ailleurs, ça m'a complètement stressée parce que du coup, j'avais peur de mal faire à chaque fois. En fait, plus on est expert d'une question, plus on flippe. Hein, donc moi, j'étais maman très flippée. Mais effectivement, en fait, le problème, c'est que dans ce métier, dès que je découvre des notions, des recherches, je me dis, oh là là, mais je fais pas ça avec mes filles, mais, oh, il faut que je refasse autrement. Vous voyez, récemment, parce que j'écris la suite de la BD que j'avais écrite, Ma vie de bébé, écrit la suite, ça s'appelle Ma vie d'enfant d'ailleurs. Et en fait, je fais un chapitre sur l'importance du rapport au corps dans l'enseignement, dans les apprentissages. En fait, je vois que plus un enfant bouge, par exemple, 1 à 4 heures par jour, et mieux ses compétences cognitives sont stimulées. Donc, il y a beaucoup de liens. Et je me dis, oh la mince, mais en fait, mes filles, elles marchent pas assez, elles bougent pas assez. Et du coup, hop, j'essaie de revoir ça dans mon quotidien. Enfin, c'est sans arrêt. Et c'est vraiment, mon conjoint pourrait vous le dire, c'est une prise de tête sans arrêt. Je suis obsessionnelle, du coup.
Alors, du coup, est-ce que vous avez peut-être un truc, une astuce pour pouvoir justement sortir, comme vous dites, de cette, de ce stress, de cette paranoïa?
Ouais, c'est difficile, hein. C'est une vraie question. Je pense que c'est une question à un million et j'aurai jamais la réponse, mais je pense peut-être passer la barre moins haute, mais.
Ouais. Non, mais c'est pas mal, en effet, hein. Je suis d'accord avec vous. J'ai tenté ma chance.
Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'en fait, du moment qu'on est un parent un peu bienveillant, on culpabilise de toute façon. La culpabilité fait partie de la parentalité. Enfin, on se sentira coupable jusqu'à la fin.
Et ça fait du bien de se l'entendre dire.
Qu'on soit beau ou mauvais d'ailleurs.
Absolument. Alors, est-ce qu'il y a, du coup, on sait que vous abordez en fait des tas de sujets justement au crible des sciences. Est-ce qu'il y a peut-être, selon vous, trois idées principales, trois idées reçues en matière de parentalité auxquelles justement les sciences ont enfin réussi à tordre le cou? Et si oui, lesquelles?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, je dirais l'idée reçu principal qu'on entend encore, mais sur le terrain, même dans les crèches, même auprès des parents, c'est l'idée de caprice. Enfin, l'idée, en fait, que l'enfant va avoir une émotion pour manipuler son interlocuteur. Comme si, en fait, l'enfant, c'était un être à la base potentiellement malveillant, un peu avec un potentiel tyrannique important, et en fait, qui voulait faire plier son parent de manière volontaire et consciente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette idée de caprice, de manipulation. Et comme si, en fait, l'enfant avait la faculté de gérer ses sécrétions lacrymales, ce qui n'est pas possible, hein, faut le rappeler. Mais par exemple, j'ai beaucoup de parents en conférence, parce que je fais énormément de conférences, qui me disent oui, mais mon enfant, il fait exprès de pleurer pour. C'est un peu ça l'idée, hein, en filigrane. Et je dis, mais est-ce que dans l'assemblée, il y a un seul parent parmi vous qui est capable de pleurer là sur commande? Ils disent, ah bah non, il faut être dans les bonnes dispositions. Mais je dis, mais pour un enfant, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il a une tellement moins bonne maîtrise que nous des émotions, qu'il sera encore moins capable que vous d'avoir une émotion contrôlée sur commande. Et les pleurs, c'est comme le rythme cardiaque, c'est comme la tension artérielle, c'est comme la pression sanguine, on ne la gère pas. C'est géré par le système nerveux autonome, qui, comme son nom l'indique, est autonome. Donc du coup, il y a pas mal de choses comme ça qu'on... Ouais, des idées reçues qui continuent de perdurer malgré le fait que la recherche l'ait complètement démontée. Mais ça continue. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a des psychologues aussi qui alimentent cette idée-là aussi, qui n'ont pas forcément des connaissances scientifiques. Bon, c'est compliqué, quoi. C'est un vrai, vrai bazar.
Et du coup, moi, en vous écoutant aussi nous partager cette histoire, en fait, de caprice, cette idée reçue, en effet, autour des caprices, je me demande aussi dans quelle mesure, finalement, la recherche scientifique, comme vous dites, atteint, en fait, ses parents. Parce que il faut être capable de prendre le temps aussi d'ouvrir un livre, de lire un article. Et on sait qu'en tant que parent, on n'a pas forcément toujours le temps justement oui. De se livrer à ce genre de recherche.
C'est très coûteux, c'est vrai, pour des parents. Après aussi, le problème, c'est que je pense que beaucoup de parents ont été élevés dans une éducation qui est peu démocratique, qui est assez autoritariste, et du coup, quelque part, cette image de l'enfant, ils l'ont intégrée en eux-mêmes quand ils étaient enfants, et ils la répliquent quand ils sont eux-mêmes parents. C'est plus qu'intellectuel, c'est aussi émotionnel, affectif, c'est très profond. On l'apporte en nous, en tout cas dans nos contrées.
Oui, et finalement, on se bat avec. Moi-même, je le vois. Parfois, j'ai l'impression de voir dans mes réactions ma mère ou mon père. Alors que, en effet, comme vous dites, on reste averti et consciente de certaines choses qu'il ne faudrait pas faire. Mais finalement, on passe notre vie à défaire ce qu'on nous a légué, forcément.
Bah, ce sont des automatismes, oui, complètement. Et c'est difficile de les déconstruire, du coup.
Et du coup, vous disiez que cette idée reçue, en fait, du caprice, finalement, existe encore même au sein des crèches, des lieux d'accueil.
Eh ben oui. En fait, je le remarque beaucoup parce que je fais pas mal de formations dans les crèches. Et effectivement, en fait, quand j'interroge un peu, je fais des formations, j'ai des slides avec les idées reçues et je leur demande, oui, alors les caprices, qui pensent vraiment que ça existe? Il y en a qui me disent non, ça n'existe pas. D'autres qui me disent oui, mais dès 1 an, d'autres dès 3 ans, d'autres dès 5 ans. Et en fait, je leur dis, mais non, mais du moment qu'un enfant a une émotion, du moment qu'il vit une émotion, son émotion, elle est bien réelle. Qu'on la qualifie de caprice ou pas, c'est une chose. Mais en tout cas, sur le plan neurobiologique, il y a des sécrétions hormonales, il y a une élévation du rythme cardiaque, il y a une élévation de la tension artérielle, donc c'est une vraie émotion. Et sur le plan scientifique, le mot caprice n'a aucune valeur, en fait, elle n'existe pas. C'est vraiment juste un jugement perceptif qui relève de la société, malheureusement.
Et est-ce que le fait, justement, de faire appel à des arguments aussi, finalement, scientifiques, objectifs, tangibles, arrive à convaincre les parents comme les professionnels de la petite enfance que, en effet, il ne s'agit pas d'un caprice, mais juste d'un petit être qui est en cours de formation?
Alors ça, c'est vraiment c'est une très bonne question. En fait, ce que je remarque, c'est qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui déjà ont la culture de la science, qui seront beaucoup plus perméables. Vous voyez, ceux qui ont déjà un bagage scientifique à la base, voilà, sont plus perméables aux arguments scientifiques. Mais pour autant, et c'était récemment, j'avais une formation justement avec des agents de la protection de l'enfance, et une personne qui me disait. On avait 3 jours de formation ensemble sur la neuroscience et au deuxième jour, elle me dit « Oui, vous avez parlé de caprices hier, mais je suis désolée, mais moi, j'ai passé ma soirée à ruminer le truc et pour moi, les enfants font des caprices, je n'arrive pas à… » Enfin, j'entends ce que vous dites, mais je n'arrive pas à l'intégrer. Et en fait, je pense qu'il y a plusieurs couches. Il y a la couche intellectuelle, ça peut passer déjà, mais après, il y a la couche vraiment émotionnelle qui est très profonde, des couches des valeurs, de la sensibilité, de l'éducation qu'on a reçue. Et des fois, ça passe pas ça peut passer à l'intellectuel, mais ça passe pas les autres couches un peu profondes. Et donc, du coup, il y a des blocages qui se font et en fait, même si jamais ils intègrent l'idée intellectuellement que l'enfant n'est pas capable d'une telle prouesse cognitive, quand l'enfant fera, voilà, il sera en colère 3 jours plus tard, ils vont balancer le mot caprice, parce qu'en fait, c'est même pour moi, en fait, c'est quelque chose de très difficile de contrer ce qu'on nous a appris peut-être depuis qu'on est tout petit. En fait, il y a vraiment plusieurs couches de réflexion et d'intégration. Donc c'est pas gagné. Voilà,
non, c'est on a pas du gagné. Travail. On a vraiment du travail.
Je pense.
Alors du coup, vous m'offrez une transition parfaite. Vous citiez votre ouvrage que je trouve moi personnellement brillant, cette fameuse BD Ma vie de bébé. J'ai adoré ce livre et même mon chéri, vous voyez, qui est un peu réticent en fait à toutes ces lectures, il a dévoré votre livre et il a adoré. Il a du coup par ricochet réussi à apprendre plein de choses, à les transmettre aussi à notre belle famille. Donc
Alors la belle-mère l'a lu ou pas?
Alors elle ne l'a pas lu, mais en tout cas sachez que tous les concepts que vous écumez et que vous abordez de manière extrêmement simple, drôle, vulgarisée, et ben du coup, elle les a fait siens. Elle les applique quand elle garde en fait notre petit garçon. Et c'est en ça, je voulais vraiment vous dire, enfin, je pense que plein de parents doivent vous faire des retours, plein de professionnels de la petite enfance aussi, mais je pense que vos ouvrages en fait sont d'utilité publique, pour ne pas dire sociétale. Enfin, cette BD, en tout cas, je sais qu'elle a transformé ma petite famille. Et ce que cette BD a de particulier, c'est que vous nous infiltrez littéralement dans la tête d'un tout petit bébé qui s'appelle Noah, depuis qu'il a atterri en fait dans le ventre de sa mère et jusqu'à son entrée à l'école. D'ailleurs, je pense qu'on est nombreux à commenter la dernière page de cette BD. Suspense pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, Héloïse, s'il vous plaît, de quoi a justement fondamentalement besoin un nouveau-né pour s'épanouir au tout début de sa vie?
En fait, il n'a pas besoin de grand chose, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous, en tant que parents, on va se mettre une pression de dingue. On va acheter beaucoup de matériel de puriculture. On va tomber dans cette industrie-là, finalement. Et quand on regarde, il a besoin surtout d'une chose. C'est du corps du parent et de l'interaction avec son parent. En fait, le petit humain, c'est un mammifère qui est profondément social et qui est programmé, qui tout son corps, en fait, est fait pour l'interaction avec ses congénères. Donc, en fait, si vous prenez juste un parent qui lui parle, qui échange avec lui et qui le touche, hein, parce que le contact physique est très important.
D'accord.
À la base, ça suffit.
Ah, c'est extraordinaire ce que vous dites. Du coup, est-ce que notre société, à votre avis, permet, justement, laisse assez de place, j'allais dire, pour créer ce lien et ces interactions, en fait, dont vous venez de parler?
Eh ben non, pas du tout. Enfin, ne serait-ce que, par exemple, le congé mat, qui est aussi court, le fait que les papas, parce que c'est encore très petit pour les papas, hein, repartent si rapidement au travail, vous laissez, en fait, vous imaginez, vous laissez un être humain ultra dépendant, parce que quand même, le petit humain est le mammifère le plus dépendant, le plus immature de tout le règne animal, vous laissez tout seul avec un individu qui a eu, qui est en postpartum, donc c'est quand même pas la période la plus brillante de notre vie, hein, on est quand même mal en postpartum. Donc déjà, à la base, c'est une situation de grande vulnérabilité. En fait, on devrait mettre la femme enceinte dans une communauté de femmes ou d'hommes, en tout cas une communauté d'adultes, et accueillir le bébé dans cette communauté-là. Il devrait y avoir au moins 5, 6, 7 adultes pour un bébé, et non pas un bébé avec une adulte seule dans un domicile. C'est très vulnérabilisant. Et c'est pas étonnant d'ailleurs qu'il y ait autant de maltraitance ou de dépression de postpartum, parce que c'est une situation assez affreuse. Donc tout ce qui est interaction n'est pas bon pour ça en France. Parce que voilà, s'il y avait plus un congé maternité plus long avec un papa qui reste aussi à la maison, s'il y avait plus de communauté physique autour de la maman, il y aurait beaucoup plus d'interactions, je pense, positives. Ça serait en tout cas favorisé.
Ce fameux village, justement, dont ont besoin les parents, comme le bébé, et dont on parle tant, en effet, dans les proverbes africains. Ouais.
Oui, complètement.
Ah là là, là aussi, ouais. En effet, il y a du boulot. Mais alors, du coup, j'ai deux questions par rapport à ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qu'il se passe dans la tête, dans le corps du petit bébé, quand son besoin finalement de contact, d'interaction n'est pas satisfait?
Alors en fait, c'est intéressant effectivement de voir qu'à la base, le cerveau, mais alors que ce soit le cerveau du chien, de l'humain, du petit, du grand, il est programmé pour tout un tas de besoins. C'est pas quelque chose qu'il choisit, c'est une programmation. Il est programmé pour un besoin de manger, de boire, de besoin de dormir, mais aussi besoin d'interaction sociale, qui est très important pour le mammifère social. Besoin aussi d'affection, de toucher, voilà. Donc c'est vraiment une suite de besoins pour lesquels il est programmé. Donc effectivement, quand l'un de ces besoins n'est pas satisfait, ça peut être par exemple juste une hypoglycémie, hein, le besoin de manger.
D'accord.
Ça va mettre son cerveau dans un état de tension, un état de manque, un état d'alerte. On va avoir une perte d'homéostasie sur le plan hormonal. Ça veut dire que normalement, en fait, il y a toujours un équilibre hormonal. Hein, et quand l'un des besoins est insatisfait de manière plus ou moins importante, ça va générer un état d'alerte. Donc, une perte d'homéostasie hormonale, une sécrétion d'hormones de stress, bien souvent. Et du coup, ça va générer des émotions désagréables, comme la colère, par exemple, la tristesse, la peur, et des comportements qu'on peut qualifier, entre guillemets, d'inadaptés. Donc, c'est vraiment toute une réaction en chaîne. Et ça, c'est vraiment un constat des neurosciences aujourd'hui. C'est qu'en fait, finalement, le comportement qui va pas, par exemple, c'est l'enfant qui tape, l'enfant qui mord, l'enfant qui hurle, la belle-mère qui critique, le chien qui aboie sur livreur Amazon. Ce sont des comportements qui sont inadaptés, entre guillemets, et du coup qui cachent des besoins, un ou plusieurs besoins insatisfaits.
Très intéressant, en effet, et c'est vrai qu'en tant que grand, en tant que parent, on peut souvent avoir du mal à identifier derrière, comme vous dites, ces maladresses, oui, ou ces comportements un peu maladroits, comme vous dites, l'expression en fait d'un besoin insatisfait.
Alors souvent, déjà, généralement, parce que beaucoup de parents me disent « Oui, mais comment je sais de quoi il a besoin ?» Alors souvent, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas de quoi il a besoin. Mais le seul fait de prendre du recul et de dire « Voilà, c'est pas une colère pour nous embêter, nous, pour nous faire souffrir, nous, mais c'est juste parce qu'il a un besoin quelque part. » On a juste ouvert une porte, là, c'est celle de l'empathie. Mais effectivement, on ne saura jamais des fois ce qui se passe dans leur tête. Et pff, moi-même hier, encore, ma fille hurlait. Elle a hurlé toute la soirée. Enfin, j'en pouvais plus. Voilà. Bon, j'avais plus d'empathie à la fin, mais n'empêche que, même si on ne sait pas de quoi elle a besoin, à la base, l'enfant ou le petit garçon, la petite fille, enfin, c'est juste, on prend du recul par rapport à ça et se dire qu'il y a quand même un manquement, en fait, de son côté. Il a besoin d'aide, en fait.
On en parlait à l'instant, dans nos sociétés occidentalisées, on peut avoir tendance, voire avoir besoin de confier nos enfants à des structures d'accueil assez tôt, finalement, dans leur vie. Alors justement, j'aimerais vous demander de quoi a besoin ce même petit bébé pour se sentir bien au sein de cette structure d'accueil
collective, hein, j'imagine que vous parlez de la crèche, oui, collective. Oui, c'est ça. C'est plus tendu comme sujet. Oui, effectivement. Alors, j'ai vu des bébés qui arrivaient en crèche dès l'âge de 2 mois et demi. Hein, c'est le minimum. 3 mois, c'est, comment dire, de manière hyper diplomate, c'est vraiment profondément inadapté, en fait, au petit humain. En fait, à la base, le petit humain, effectivement, c'est un mammifère qui est social, on l'a dit tout à l'heure, donc il est en recherche perpétuelle de contacts sociaux, mais les autres enfants, ils s'en foutent à cet âge-là, ils s'en foutent complètement, il doit être en corps à corps avec un adulte, donc un être humain mature, donc qui peut prendre soin de lui, mais le côté collectivité précoce, ça n'a aucun impact positif, vraiment aucun intérêt positif pour cet enfant. En fait, idéalement, la collectivité devrait commencer vers l'âge de 18, à peu près 18 mois environ, quand, d'accord, il commence un petit peu à se tourner vers ses congénères de son âge, mais avant, ça n'a pas d'intérêt. Et le problème, c'est que quand on voit aujourd'hui les taux d'encadrement dans les crèches, pour avoir fait 10 ans de crèche, quand on voit une personne pour 5 bébés, vous imaginez bien que là, on est complètement contre nature et on est même d'ailleurs dans les stats inversées des structures traditionnelles où ils sont 5 adultes pour un bébé. C'est fou. Donc forcément, ils pleurent tout seuls. Et au moment du repas, le midi, c'est compliqué. Et donc en fait, les professionnelles, elles ont la marge de manœuvre, mais elles se heurtent vraiment à un cadre qui est inadapté à la base, en fait. Vous voyez, c'est ça qui est compliqué. Donc, du coup, même si on a la meilleure des pros avec la meilleure des structures, mais si vous avez 20 bébés dans la même section avec 4 pros, du coup, ça va pas. Ça peut pas aller, en fait.
Je comprends.
C'est ça qui est compliqué. Et pourtant, enfin, la crèche à la côte, parce que tous les parents pensent que ça va rendre leur enfant sociable. Alors, ça l'apprend à vivre en collectivité, mais ça le rend pas forcément sociable. La socialité, c'est aussi une question génétique. Il y a une question aussi d'éducation. C'est encore une autre question, en tout cas.
Bah justement, racontez-nous quelle nuance vous faites entre justement cette notion de sociabilité qui est quand même l'argument qu'on invoque tous en tant que parents. Voilà, quand on bien évidemment qu'on met nos enfants en fait en crèche pour pouvoir travailler, mais j'entends aussi très souvent cet argument de la sociabilité, de la sociabilisation qui intervient. Alors quelle différence vous faites entre la sociabilité et le fait d'apprendre à vivre en collectivité?
Oui, c'est vrai que c'est encore différent. Enfin, même, il y a encore une confusion aussi, c'est le fait d'être social. À la base, l'enfant, il est social, puisque de toute façon, c'est un mammifère social, hein, comme le chat, comme d'autres animaux. Mais après, il peut être sociable. Sociable, c'est encore différent. Le fait d'être sociable, c'est le fait de prendre du plaisir dans les rapports aux autres et le fait d'avoir une facilité à interagir. Voilà, c'est comme l'image qu'on a de l'enfant sociable et c'est encore différent. Et c'est pas parce qu'un enfant va faire la collectivité que ce sera un enfant sociable. C'est encore différent. En collectivité, il apprend à vivre avec les autres. Il apprend le tour de rôle. Il apprend effectivement qu'on partage les jouets. Il apprend que à mettre son plateau. Voilà, l'autonomie aussi. On apprend beaucoup en collectivité. Mais c'est encore différent des enjeux d'être sociable ou non. Parce que, imaginons, vous avez deux parents qui sont introvertis. Vous avez des parents voilà qui sont pas forcément ouverts sur le monde. Vous mettez l'enfant en crèche, ça changera pas grand chose. En fait, on est sociable si on a une DNA génétique à la base et puis si l'environnement aussi est favorable. Donc voilà, c'est pas parce qu'on passe en crèche, en tout cas, qu'on est sociable. Et puis on peut aller chez la SMAT et être sociable aussi. Il y a aucune, c'est pas systématique dans un sens comme dans l'autre du coup. Ce qui est une bonne chose.
Intéressant. Oui, absolument. D'ailleurs. Absolument. Voilà, c'est pas figé. Donc
voilà. Jamais. Et de la vie d'ailleurs.
Tant mieux. Ça aussi, ça oui. Fait du bien de se l'entendre dire. On parle finalement d'émotions très souvent depuis le début de notre échange. Vous avez obtenu un doctorat sur le thème des émotions du bébé.
Oui.
Et du coup, j'aurais aimé en fait vous demander quelles sont les émotions justement qui traversent les très jeunes enfants et comment elles se manifestent au sein de leur comportement.
Alors ça c'est, enfin en tout cas moi je travaille vraiment sur le nouveau-né, donc c'est une niche hein, parmi les niches. Hein. On est très peu en France à se préoccuper du nouveau-né et des émotions du nouveau-né. Alors là on s'en fiche royal du coup parce que c'est vraiment une niche du niche du niche et enfin chaque thèse est une niche hein, cela dit mais en tout cas ça c'est vraiment un débat parce qu'il y a des chercheurs aujourd'hui qui estiment que le nouveau-né étant encore un être non cortiqué, un être non conscient, il n'éprouvera pas d'émotions différenciées. Il éprouvera un axe plaisir des plaisirs ou alors un axe frustration ou détente mais n'éprouvera pas d'émotions différenciées encore aujourd'hui en 2022. Et il y a d'autres chercheurs qui sont plus une approche un peu plus interactionniste, qui va plus l'enfant dans sa globalité, dans une forme d'interaction sociale, qui eux vont dire non mais si l'enfant il éprouve des émotions qui sont différenciées, c'est vraiment une approche qui est complètement différente. Mais en tout cas, il y a un vrai débat et pourtant il n'y a pas de consensus aujourd'hui. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y aura jamais parce qu'en fait on peut pas prouver ces choses-là chez le tout petit. Mais par contre, ce que dans ma thèse je mettais en avant, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est le fait, enfin moi je travaillais beaucoup sur le sourire néonatal. D'accord. Du coup du nouveau-né. Alors c'est encore une niche, une niche, une niche, le coup. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que beaucoup disent oui, mais le sourire, il est non intentionnel. Ce sont des sourires gaz, ce sont des sourires avec voilà, l'enfant il sourit parce qu'il a un gaz, parce que c'est quelque chose d'endogène, mais c'est rien de social. Et en fait, ce qu'on peut voir il y a d'autres recherches qui montrent que le sourire que l'enfant fait quand il est en interaction avec un partenaire social, avec un parent, vous voyez, dès un jour de vie, deux jours de vie,
oui.
Et ben c'est pas forcément le même sourire sur le plan morphologique que le sourire qu'il fait dans son sommeil, par exemple. C'est encore un sourire différent. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est que dans tous les cas, le sourire que l'enfant va émettre. Mais ce qui est beau, c'est que dès la naissance, le sourire que l'enfant va émettre, il va provoquer un sourire chez l'interlocuteur, systématiquement.
C'est ça.
Genre, les parents s'en foutent si c'est un sourire social ou non. Ils sourient, ils sont hyper contents, on est hyper fiers. Et donc, du coup, le seul fait qu'il va avoir un impact comme ça, social, très fort sur l'interlocuteur, va faire de lui un signal social, parce que finalement, il va impacter le partenaire. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, absolument.
Du coup, il me dit que ce sourire-là, il a une importance énorme, il ne faut pas le négliger. Et c'était un peu ce que je soutenais dans ma thèse. Du coup, mais bon, c'est quand même des controverses, il n'y a aucun consensus sur la question, on en est très très loin encore.
En tout cas, c'est passionnant de vous être emparé de ce sujet. Comment avez-vous eu l'idée justement de plancher sur ce sujet et plus particulièrement sur les nouveau-nés?
Alors c'est parce que j'ai rencontré un directeur de thèse en fait qui travaillait sur les nouveau-nés à la base. Alors moi j'étais pas du tout à l'aise avec cette problématique là. Et en fait, plus je suis plongée dans la littérature scientifique, je me suis dit mais c'est passionnant en fait comme... On est à l'aube de la vie, en fait. On est là. L'enfant, il n'a pas encore d'interaction sociale. Enfin, il n'a pas encore de vie extra-utérine. Donc, c'est passionnant. Enfin, c'est vraiment. Et là, donc, je suis vraiment laissée prendre au jeu. Et vous voyez, 5 ans plus tard, j'ai soutenu ma thèse.
C'est génial. Félicitations.
C'était long.
Ouais, mais merci. Vous avez tenu et vous y êtes arrivé. Ouais. Donc, félicitations à vous et en tout cas, merci pour ce que vous nous livrez. Quand on parle d'émotions, on parle aussi souvent de tempête émotionnelle. Est-ce que tous les enfants, en fait, sont sujets, enfin, tous les enfants, j'allais dire, en bas âge, hein, dans la petite enfance, est-ce qu'ils sont tous sujets à ces tempêtes? Et finalement, quelle est la bonne attitude à adopter pour pouvoir les consoler, voire les accompagner pour pouvoir dépasser ces tempêtes émotionnelles?
Enfin, c'est une très bonne question. Alors, la première question, est-ce que tous ces enfants sont sujets aux tempêtes émotionnelles? Alors, effectivement, la réponse, c'est oui. Mais pour autant, vous avez dû remarquer, il y a une très, très grande variabilité, quand même, d'intensité sur le terrain, selon les profils d'enfants. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des enfants, d'ailleurs, c'est une partie de ma thèse aussi, hein, il y a des enfants qui ont un tempérament qu'on va appeler faiblement réactif. Alors là, c'est des enfants cool. Alors, ceux-là, on les veut tous. Les grands-parents s'y arrachent, ils sont peu réactifs, ils ont peu d'émotions fortes, ils pleurent moins souvent que les autres. Ils sourient plus souvent. Et dès la toute petite enfance, on perçoit les différences. Hein, c'est incroyable. Et malheureusement, c'est le cas de mon aînée notamment, ma cousine aussi, des enfants de l'autre côté qui ont un tempérament qu'on appelle hautement réactif. Donc là, c'est des enfants qui vont pleurer, crier plus souvent que les autres. Et en fait, leur amygdale cérébrale se met plus souvent en alerte, en fait, plus intensément.
Une partie de leur cerveau qui est celle qui gère justement les émotions.
Exactement. Et donc, du coup, ces enfants-là sont beaucoup plus irritables, à fleur de peau, et aussi colériques. Voilà. C'est vraiment... Et en fait, c'est intéressant cette question-là, aussi dans le sens où comment, en fait, on expliquait qu'il y en a qui sont faiblement réactifs et d'autres qui sont hautement réactifs. Et en fait, il y a plein de facteurs possibles. Il y a la génétique, déjà. Est-ce que l'un des parents a une forme d'hyperémotivité ou est-ce qu'il s'emballe rapidement? Moi, c'est mon cas.
Intéressant. D'accord.
Aussi. Et puis, il y a aussi ce qu'on voit, c'est que pendant la grossesse, imaginons que la maman vive un stress très important pendant la grossesse. On sait que le niveau de cortisol que la maman ressent pendant la grossesse est proportionnel à celui du fœtus et que le cortisol traverse la barrière placentaire et du coup va atteindre le cerveau fœtal, et ça peut créer une hypersensibilité au stress aussi dans cette dynamique-là, et donc du coup une forme de tempérament hautement réactif. Et puis aussi l'épigénétique. Voyez, l'épigénétique, ça c'est affreux, on est en plein dedans en ce moment. C'est le fait de dire que les traumatismes peuvent aussi se transmettre. Donc si une maman a un trauma, par exemple, avant d'être enceinte, ou le grand-père a une problématique particulière, ça peut modifier l'expression des gènes et du coup se transmettre pour le petit... nouveau-né innocent qui n'a rien demandé à personne.
Impressionnant.
Ouais, non, c'est fou. Il y a
plein de facteurs. On peut transmettre des événements, enfin, en tout cas, l'émotion qu'a provoqué un événement à notre petit. D'accord.
C'est dingue.
C'est absolument, c'est terrifiant. Incroyable, en effet, ouais.
Les petits-enfants, ceux qui ont vécu la Shoah, par exemple, ont plus de risques d'avoir une hypersensibilité.
D'accord. Et en même temps, comment ne pas le comprendre?
Vous pouvez rien faire. De toute façon, votre bébé est né comme ça. Par contre, ce qu'on remarque dans la recherche, ça c'est vraiment un point important qu'il faut toujours rappeler aux parents, c'est que si l'environnement familial est posé, calme, qui réagit posément aux manifestations émotionnelles de l'enfant, ça peut venir diminuer la réactivité du tempérament. Donc rien n'est figé pour autant. Voilà.
Très intéressant. Alors justement, vous m'offrez là aussi la parfaite transition. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner un enfant qui est en proie à une tempête émotionnelle? Comment on communique avec lui finalement? Comment est-ce qu'on l'accompagne pour sortir ce bouleversement momentané?
Alors là, c'est une bonne question. Alors, après, il y a la question théorique et la question pratique. C'est-à-dire que, en théorie, ce qu'on devrait tous faire, hein, si on est frais, si on est dispo, si on est bien reposé, si on a fait une thalasso pendant 3 semaines avant,
c'est ça.
Quand l'enfant en fait est sujet à des sécrétions de cortisol, hein, parce que quand il vit une émotion de colère, c'est qu'il a, il se crée du cortisol, il a une élévation du rythme cardiaque, tout son corps en fait se met en système de stress, hein, le système ce qu'on appelle sympathique, donc c'est un faux ami. Et dans ces cas-là, ce qu'on devrait amener de manière inconditionnelle, c'est l'antidote du cortisol. C'est ce qu'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone molécule qu'on va sécréter pendant les périodes, qu'on appelle l'hormone de l'attachement, du lien social, qu'on va sécréter quand on prend un enfant dans les bras, quand on caresse un enfant, quand il y a beaucoup de gestes sociaux, chaleureux et empathiques. Et en fait, elle va vraiment venir agir comme l'antidote du cortisol, à savoir qu'elle va venir diminuer la réactivité de l'amygdale cérébrale sur le moment qui est très en alerte, du coup, et aussi entraîner une décélération du rythme cardiaque, de la tension artérielle et aussi de la fréquence respiratoire. Donc, elle agit vraiment comme un anxiolytique sur le moment, cette hormone. Et pour ça, donc, quand un enfant est en émotion très forte, en colère, tristesse, peur, ce que vous voulez, le mieux, c'est de se mettre à hauteur de l'enfant, de le toucher et de lui apporter une autre présence empathique et puis d'attendre que la colère passe, mais avec la proximité bienveillante de l'adulte, ce qui est dur à faire au quotidien, je vous le dis.
Oui, comme vous dites, là aussi, il y a la théorie et la pratique, mais c'est déjà bien de pouvoir rappeler justement cette théorie et puis de faire de son mieux et comme on peut pour pouvoir l'appliquer. Et
oui. Comme on peut, oui. Je pense qu'il faut vraiment enlever la pression aux parents. On fait vraiment ce qu'on peut. Moi-même, j'ai toutes ces notions en tête et des fois, j'y arrive pas. Ouais. C'est trop difficile, en fait.
On est humain et comme on le disait, de toute façon, notre société ne nous laisse pas ni le temps ni la place pour être dans l'état d'esprit nécessaire.
Ça, oui, en plus, il y a ça aussi.
À accorder à ces enfants-là. À ce sujet, moi, je me souviendrai toujours quand on a débarqué dans notre crèche avec notre petit garçon. Dès le début, on nous a presque ordonné de ramener ce qu'ils appelaient un objet transitionnel, à savoir un doudou. Je vous avoue que moi, j'étais pas du tout convaincue. Hein. J'étais même hyper sceptique. Mais en gros, ce doudou avait pour mission de prendre le relais, notre relais, à mon chéri et à moi, en cas de moment de crise ou pour gérer les cris, les pleurs, le trop-plein de bruit au sein de la crèche. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces doudous? Quel est le pouvoir réel de ces doudous sur nos bébés?
Alors, c'est que c'est un sujet extrêmement sensible. Alors, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est un sujet vraiment polémique dans la petite enfance, le doudou. Comme quoi, on peut polémiquer de plein de choses. Dans la petite enfance, c'est des sujets qui sont vraiment très, très sensibles. Et en fait, le doudou, à la base, il est très culturel. Hein. C'est-à-dire qu'il n'existe pas dans toutes les cultures. Il y a des cultures qui n'ont pas de mots pour désigner le mot doudou. Hein. C'est un truc qui nous est cher à nous. Et en fait, quand on regarde un peu l'historique des évolutions de conditions de maternage, on voit qu'avant, on était tous vraiment tant qu'on est sur la planète en maternage qu'on appelle proximal, on était proche du corps de bébé, on était en portage, on était en allaitement, on était en cododo, voilà, on était vraiment, il y a une grande proximité physique corps à corps entre le bébé et l'adulte. Et en fait, après on a commencé à migrer vers un maternage qu'on appelle distal, donc qui dit une distance entre le corps de l'enfant et le corps de l'adulte. Et là, à ce moment-là, on a trouvé des palliatifs, on a trouvé des béquilles pour compenser un peu l'absence du corps de l'adulte et le doudou, hein, avec tous les apports théoriques de Winnicott aussi, d'après-guerre, où les enfants étaient orphelins, où ils avaient besoin de palliatifs à la présence de l'adulte, a commencé à faire son apparition. D'accord. Et le problème aujourd'hui, c'est que dans les crèches, alors c'est ce que je dénonce, et c'est vrai qu'on m'a beaucoup critiqué pour ça, et je comprends, ça peut blesser, mais en fait, l'objet, le doudou, n'est pas en fait un objet consolateur, ne devrait jamais être un objet consolateur. C'est-à-dire que le doudou ne devrait jamais consoler un enfant. Le doudou, c'est qu'un objet. Alors, même s'il sent bon, même si, d'ailleurs, récemment, il pue, d'ailleurs. Mais bon, n'a pas objet de consoler. Ça reste qu'un objet, en fait, en tant que tel. Et la consolation devrait toujours être apportée systématiquement par un adulte avec une sécrétion d'ocytocine, justement, et une création de lien d'attachement. C'est ça, l'intérêt. Donc, l'adulte, enfin, pour moi, le doudou, c'est qu'une béquille. D'ailleurs, mes filles n'en ont pas. Quand on a un âge proximal, généralement, les doudous n'apparaissent pas. Il n'a pas de, parce qu'en fait, l'enfant a ce qu'il veut. Sinon, il a besoin plutôt, donc pas besoin de doudou.
Même la manière dont vous présentez les choses avec cette, j'allais dire ce background, tout ce contexte en fait historique, c'est vrai que ça remet en lumière le doudou d'une autre manière. Et comment du coup est reçue cette parole même au sein des crèches?
La parole.
Ce que vous venez de nous expliquer à propos du.
Ça, déjà, je vous dis, au bout d'au moins 5-6 heures de formation, c'est pas au début, il faut le temps de se connaître. Et après, d'ailleurs, je pense que je suis la seule à tenir ces propos-là, à ma connaissance en France, donc du coup, je m'en prends plein la tête. En fait, je pense que ça provoque beaucoup de. Mais très légitimement, de réactions de surprise, parce que on nous a appris que le doudou était important. Donc, même en formation, on apprend en professionnel à demander aux parents un doudou. Donc, c'est quelque chose qui est très institué dans nos pratiques françaises. Donc, c'est la surprise. Et puis, des fois, comme la personne a l'impression d'avoir mal fait avec son propre enfant, elle se dit, voilà, donc il y a un peu, des fois, une réaction qui peut être un peu agressive. Mais généralement, c'est beaucoup de surprises. Et en fait, on est en train de décortiquer des idées reçues que les professionnels ont tellement intégrées en eux que ça, voilà, c'est quelque chose de compliqué. C'est quand même, ça, je dis pas tout de suite, quoi.
Ouais.
Mais ça fait sens en même temps. C'est du bon sens, en fait. C'est pas waouh, quoi.
Quel combat. Et vous avez bien du courage, en tout cas, de continuer à le mener. Il y a un autre sujet sur lequel, justement, j'aimerais vous faire réagir. On voit de nos jours fleurir des tas de concepts de crèches, d'écoles, de méthodes, de matériel, plus ou moins d'ailleurs bien inspirés de la pédagogie de Maria Montessori. Et même si ces travaux sont précieux et édifiants, il y a eu tant d'autres pédagogues qui ont porté un regard novateur sur l'enfant et dont on parle finalement si peu. J'aimerais savoir ce que vous pensez, Héloïse, de ce dogme pédagogique qui est érigé justement autour de Maria Montessori.
Alors c'est vrai que je pense qu'elle-même, en fait, vraiment, se retournerait dans sa tombe si elle entendait tout ce qu'on disait d'elle aujourd'hui, comment on la dogmatise, en fait, sans qu'elle, la pauvre, elle avait rien. Enfin, je pense pas qu'elle ait demandé autant. Quand je vois la FNAC, quand je vois la nature découverte et des jouets Montessori, c'est vraiment une folie dogmatique. Mais bon. Mais alors, effectivement, je pense que, de manière générale, il y a tellement, en fait, depuis Maria Montessori, depuis ce contexte historique dans lequel elle a effectivement émis des idées extrêmement novatrice, mais extrêmement aussi avant-gardiste. Depuis, vraiment, de l'eau a coulé sous les ponts. Alors, beaucoup de concepts qu'elle a émis ont été confirmés. Hein. Tout ce qui est intelligence par l'action, tout ce qui est importance de l'autonomie de l'enfant, tout ça a été confirmé. Mais pour autant, il y a énormément de recherches. Enfin, depuis, la psychologie de l'enfant et du développement a explosé. Et du coup, il y a énormément de données scientifiques récentes qu'il faut toujours intégrer. Je pense, vous voyez, en fait, quand on est dans le dogme, on n'est plus dans l'actualité de la recherche, je pense. C'est comme si on s'inscrivait dans le passé. Là, je pense qu'il faut tout prendre, en fait. Toutes les recherches dans tous les domaines, la théorie de l'attachement, la théorie des apprentissages, tout ce qui est contrôle inhibiteur, tout ce qui est, voilà. Toutes les théories actuelles en psychologie du développement, qui n'en sont pas finies, hein, vont encore évoluer ces prochaines années, sont bonnes à prendre et donc, quand on accompagne un jeune enfant, quel qu'il soit. Donc, ne jamais s'arrêter à un seul pédagogue. Aucun pédagogue au monde n'est suffisant, je pense, pour accompagner un jeune enfant.
Je vous remercie en tout cas pour votre point de vue. Il y a un autre sujet qui obsède, hein, on va pas se mentir, le très jeune parent, c'est celui du sommeil. Et vous avez beaucoup planché, écrit, vous êtes souvent intervenu sur le sujet. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer, s'il vous plaît, sur la manière dont fonctionne le sommeil du tout petit bébé ?
Alors ça, c'est une question qui revient souvent de la part des parents parce qu'ils voient bien que leur enfant ne dort pas la nuit, se réveille fréquemment. D'ailleurs, c'est une vraie claque qu'ils se prennent, hein, parce que moi aussi, hein, je ne sais pas qu'un bébé se réveille autant la nuit.
Non, c'est vraiment horrible. Un mythe.
Ce n'est pas un mythe. Et en fait, le sommeil du très jeune enfant a trois grandes particularités. La première, qui ne nous arrange pas du tout, c'est qu'il a des cycles courts. Et qui dit cycle court dit micro-réveil entre chaque cycle et dit du coup réveil potentiel. Donc, plus l'enfant est jeune, plus il a des cycles courts et plus il a des réveils nombreux et potentiels. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième grande particularité, c'est que en plus, non seulement ces cycles sont courts, mais ils ne sont pas composés de la même manière. Plus l'enfant est jeune, plus il a le sommeil qui est agité et moins il a le sommeil qui est lent, profond. Donc, plus il est réveillable, plus il est, voilà, moins il a un sommeil qui est profond comme serait l'enfant plus âgé ou l'adulte.
D'accord.
Et surtout, troisième aux grandes particularités, c'est que l'enfant est sujet à énormément de parasomnies. Hein, les parasomnies, ce sont les troubles du sommeil qui sont bénins, certes, mais qui vont encore réveiller les enfants la nuit, provoquer des réveils nocturnes. Ça peut être les terreurs nocturnes, ça peut être le bruxisme, hein, c'est le fait de grincer des dents, ça peut être la somniloquie, le fait de parler, l'éveil confusionnel. Ouais, y a plein de trucs. En fait, les pauvres, ils ont vraiment un sommeil qui est vraiment à la base pas programmé en fait pour avoir des nuits complètes. Donc c'est pas étonnant en fait qu'on soit autant en difficulté avec leur sommeil. Il est profondément différent.
Présenté comme ça, c'est même en effet plausible du coup que l'on galère pendant plusieurs années avant de stabiliser ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre finalement en place pour soutenir le petit et pour l'aider finalement à apprendre à dormir. Mais est-ce qu'on apprend en fait à dormir ?
Ben non, parce que le fœtus dort très bien.
Oui, c'est vrai.
Très bien dans notre utérus. Enfin, on a pas d'autre mot à dire. C'est qu'on parle souvent d'apprendre à dormir, mais en fait, l'enfant, dormir, c'est super naturel. Hein. C'est juste qu'ils font pas les mêmes nuits que nous, mais il dort très bien. Par contre, ce qu'on peut faire, et c'est là que c'est intéressant, parce que tous les travaux en chronobiologie nous montrent ce qui est favorable au sommeil et ce qui l'est beaucoup moins. Et en fait, on voit quelque chose de majeur, c'est qu'il y a trois éléments qui vont sur lesquels nous, adultes, parents, professionnels, on va devoir jongler. Le premier élément, c'est la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone de l'obscurité qu'on sécrète quand il fait sombre et qui favorise le sommeil. Donc, c'est notre copine. Vraiment, clairement, c'est celle qu'on veut que l'enfant sécrète. Et en fait, pour ça, il va falloir diminuer, du coup, la luminosité de l'environnement.
D'accord.
Au moins, une demi-heure, au moins une heure avant que l'enfant s'endorme le soir. Donc, plus elle est élevée, plus l'enfant s'endort. Deuxième élément hyper important aussi, c'est le cortisol. Là, c'est notre pire ennemi. Plus il y a de cortisol, plus ça va venir bloquer la mélatonine et moins l'enfant s'endort. Donc du coup, pareil, idem, le soir avant que l'enfant... donc là, la sieste aussi, c'est en l'occurrence, c'est possible aussi. Une heure avant, une demi-heure avant, on va faire en sorte que le cortisol de l'enfant ne augmente pas trop, voire le diminuer. Donc on va faire des techniques de contrôle respiratoire, des caresses, des massages, parce que l'ocytocine diminue le cortisol. Donc plein de trucs en fait, pour que diminue, quoi, parce que sinon, il ne pourra pas dormir.
Donc vraiment l'apaiser.
Il faut l'apaiser, ouais.
D'être dans un mood, finalement dans un état d'esprit et dans une ambiance qui l'apaise.
Mais bon, comme on est souvent stressé le soir parce qu'on veut que l'enfant s'endorme, moi la première, bon, c'est dur. Mais ça, c'est la théorie. C'est la théorie. Et le troisième élément super important, c'est la température corporelle. Ça, c'est un élément qui est aussi décisif que la mélatonine et que le cortisol. En fait, on voit que plus la température est élevée, moins l'enfant s'endort. Donc, l'objectif de l'adulte, ça va être de diminuer la température de l'enfant. Alors, pas en mettant au frigo, hein, de manière beaucoup plus simple. Ça peut être aérer la chambre avant de dormir. En plus, ça diminue taux de CO2, ça peut être mettre une chambre à 19 degrés, 20 grand maximum, ne pas surcouvrir l'enfant, ne pas couvrir ses pieds, hein, parce que les extrémités du corps gagnent 1 degré la nuit.
D'accord.
Pas mal de choses, voilà, pour pas que l'enfant surchauffe littéralement la nuit, sinon ça fait des réveils nocturnes aussi.
Ah là là, bah merci en tout cas pour ces astuces, je pense que nous allons être pleins à les noter et surtout à les appliquer.
Ouais, ça change tout, vraiment.
C'est génial. Justement, on voit l'importance de l'environnement dans l'épanouissement des tout-petits. Or, aujourd'hui, on vit dans un monde de sursollicitation. On le voit, nos enfants sont entourés de jouets, de gadgets électroniques, de musique qui résonne à tout va, d'écran, bien évidemment. Le silence devient littéralement un luxe. J'aimerais savoir, quel est selon vous l'impact d'un tel environnement sur le développement de nos enfants?
Alors en fait, c'est vrai que c'est une bonne question aussi. Tout ce qui est jouet électronique, tout ce qui est écran, va venir en fait surexciter ce qu'on appelle le système d'orientation et de vigilance de l'enfant. Et du coup, ne pas lui permettre d'augmenter ce qu'on appelle l'attention volontaire. Vous voyez, en fait, un enfant, pour qu'il développe des capacités d'attention, de concentration, mais aussi une forme d'autonomie, hein, pour qu'il puisse jouer seul, il faut en fait qu'il joue dans le silence. C'est bête, mais le silence, laisser l'enfant jouer seul dans le silence de temps en temps, et si possible de jamais mettre de musique de fond, de télévision au fond, pas d'écran, pas de jeu électronique, permet à l'enfant de muscler ses capacités attentionnelles, qu'on appelle aussi le système attentionnel focalisé. Et en fait, plus l'enfant développe son attention, plus il muscle son attention, sa concentration, et plus après, il arrivera à se concentrer. Déjà, c'est vraiment un muscle, hein, comme si on le musclait. Ça sécrète, ça fait des réseaux neuronaux, ça fait maturer le préfrontal.
Impressionnant.
Et du coup, plus il sera bon aussi à l'école, parce que pour être bon à l'école, il faut se concentrer. Pour plancher sur un problème de maths, il faut réussir à inhiber les distracteurs, vous voyez, à ne pas écouter petit oiseau alors qu'on a un problème de maths, à ne pas répondre aux copains qui sollicitent. Donc, l'attention, c'est vraiment au cœur d'apprentissage et au cœur de la réussite scolaire. C'est qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on parle même plus de QI pour réussir scolairement. On dit plus l'attention, l'enfant a un bon contrôle inhibiteur, c'est le fait de résister en fait aux distractions, de résister aux pensées parasites, et plus il aura de chances de réussir scolairement. Donc en fait, concrètement, les écrans, même s'ils sont dits éducatifs, ne vont pas du tout permettre à l'enfant de réussir scolairement. C'est vraiment, au contraire, plus il y a d'écran, plus il y a de minutes d'écran par jour, et plus l'enfant diminue ses chances de réussite scolaire. C'est ce qu'on voit dans les études. Pour la télévision notamment, c'est assez marqué.
D'accord.
C'est terrible. Hein.
C'est le monde dans lequel on vit, et en effet, je pense que là aussi, c'est un combat au quotidien, en tout cas pour mettre en place ce qu'il faut de manière à pouvoir, comme vous dites, pouvoir protéger nos petits enfants. Je pense aussi que c'est comme tout, c'est un pli, c'est une habitude à prendre dès le début, mais on le sait tous,
complètement.
Pas forcément évident.
Mais après, vraiment, je conseille vraiment aux parents, c'est vraiment très important, parce qu'ils se doutent pas de l'importance que ça a, mais vraiment, quand ils ont un enfant, mais dès le début de la vie, ne jamais mettre de musique de fond, éteindre les notifications de portable pour pas que ça vienne parasiter l'attention de l'enfant, pas de musique de fond, pas de télévision en fond, pas de jeu électronique, et on laisse l'enfant jouer dans le silence ou explorer dans le silence. C'est vraiment super important. Et quand un enfant est concentré, on essaie de pas le déranger. Mais bon, c'est difficile parce que des fois il faut bien partir à l'école. On est d'accord.
Non, et puis même, c'est super intéressant ce que vous dites, parce que même on peut être tenté de l'interpeller, alors que comme vous dites, il n'y a pas forcément de raison en fait de faire interférence dans son activité.
C'est ça.
Jusqu'à quel âge à peu près vous préconisez justement ce cocon, j'allais dire, cette bulle en fait un peu protectrice, un peu silencieuse autour de l'enfant?
Mais il n'y a pas d'âge, hein, parce que vous voyez, même pour nous, pour être productif, avoir une bonne intention, on veut mieux le silence que la radio en fond. Hein. Hein, c'est pareil pour
là
nous.
Là aussi, c'est vrai que c'est du bon sens. Voilà.
Parce que nous, c'est bon, c'est fini, nous déjà, les dés sont jetés.
C'est vrai, c'est irréversible même pour nous.
Non, le cerveau est plastique toute la vie, hein, mais bon. C'est vrai que les enjeux sont plus pour les tout petits, parce que nous, notre scolarité, elle est derrière nous, hein, mais on devrait tous faire pareil toute la vie. Hein. Mais moi, quand je travaille, j'écris un livre, par exemple, j'éteins tous les sons. Je peux pas.
Vous vous mettez dans votre bulle.
Ah ouais, ouais, sinon j'arrive, je suis beaucoup moins productive. Sauf plus que j'ai un trouble de l'attention, j'ai une hyperactivité. Donc.
Je vous comprends, je pense que je suis pareil que vous, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on a décidé d'aller vivre, vous voyez, en rase campagne, en pleine nature, il y a une dizaine d'années.
Ah oui, d'accord, carrément, on va passer, sauter le cap.
Ouais, complètement, complètement, et ça fait, je vous promets que ça fait toute la différence, vraiment. Héloïse, vous avez appris, j'allais dire, aux côtés d'une grande dame qui s'appelle Josette Serre, qui est l'une des plus grandes spécialistes françaises des neurosciences, pour la faire simple. Hein. Elle est ce que vous appelez votre mentor. Alors, j'aurais aimé savoir, question forcément un petit peu indiscrète, qu'est-ce que le fait de la côtoyer vous a le plus apporté? Peut-être même, qu'est-ce que cela vous a dévoilé sur les enfants?
Alors, c'est marrant parce que, effectivement, dès que je la vois, j'apprends plein de choses. Et c'est marrant parce que la dernière fois, j'ai envoyé un mail, même ne serait-ce que tout, enfin, le moindre échange qu'on peut avoir, on en a souvent parce qu'on est assez proches. J'apprends toujours des choses sur elle, et sur les enfants. Et à chaque fois, elle m'apporte une autre vision de l'enfant. Alors, je ne saurais pas dire précisément ce qu'elle m'a appris, parce que c'est quelque chose de très, enfin, ça fait longtemps que je la connais, que je la côtoie. Mais en tout cas, je sais que ça, elle m'apprend beaucoup. Et toute ma manière de percevoir l'enfant, je sais la teinte que j'ai dépend de sa teinte à elle, c'est clair, c'est sûr. Elle m'a énormément influencée. Et d'ailleurs, je remarque aussi, je l'influence aussi un petit peu, alors très très peu, hein, avec beaucoup disons que je l'apporte aussi, enfin, pour au doudou par exemple, c'est des choses qu'elle pense pas forcément. Donc on s'enrichit, mais effectivement là, quand même, elle m'enrichit beaucoup plus, hein, à 99% que je ne l'enrichis moi.
Oui, mais en même temps, c'est génial d'avoir ce lien et cette interaction, justement, ce partage de vos recherches et de travaux qui fait que vous vous apportez l'une l'autre.
Oui, on se sent moins seul, en fait. C'est intéressant parce qu'on est quand même seul dans nos métiers. Vous voyez, quand on est intervenant, quand on est conférencier, formateur, on est seul. Le soir, quand on rentre à l'hôtel, on est seul. Donc, c'est vraiment un métier où on a besoin de partager entre nous, et on n'est pas beaucoup à le faire en France. Le fait d'être formateur en neurosciences, comme ça, on n'est pas énormément à le faire. Donc, on a besoin de partage. C'est aussi ça, je pense.
Vous voyez, même ça, je pense que nous, communs du mortel, on ne s'en rend pas compte. En effet, on ne se rend pas compte, en fait, de cette solitude que vous pouvez vivre, et de à quel point, en fait, ces échanges et ces contributions mutuelles peuvent vous faire du bien. Eh bien, vous, en tout cas, la vie a bien fait de vous faire vous rencontrer. Pour nous comme pour vous.
En fait, elle vient du laboratoire où j'ai fait ma thèse, c'est pour ça aussi.
D'accord, c'est ce qui vous a permis de vous rencontrer.
En fait, même pas, non, parce que c'était un colloque que j'organisais, je voulais la faire venir, et c'est là qu'on s'est rencontrés, je pensais. Et en fait, elle est hyperactive aussi, peut-être ça. Et elle est comme moi, on a un débit verbal, enfin, c'est drôle parce qu'on se retrouve vraiment, mais bon, elle est beaucoup plus âgée que moi, mais voilà, on a aussi, je pense, une personnalité commune. Qui fait que ça a matché, quoi.
C'est génial, en tout cas. Pour conclure, j'aimerais, en fait, vous poser une question, j'allais dire, d'ordre politique. Et en même temps, toutes vos interventions et vos travaux, à mes yeux, en tout cas, revêtent quelque chose de l'ordre du politique. Nous sommes à quelques semaines des présidentielles. Et j'aurais aimé savoir si, selon vous, il y aurait une mesure que là où le futur président de la République devrait prendre pour contribuer à l'épanouissement des tout-petits en France. Et si oui, bien évidemment, laquelle ?
Voilà, ça, c'est une question à 1 million. Parce que moi, je suis tellement apolitique, je ne comprends rien à la politique, j'ai beaucoup de mal à... alors, j'aurais deux mesures. J'aurais déjà, effectivement, comme c'est une mesure qui est classique, hein, tout le monde le dit, mais un allongement du congé maternité payé à 100%, et aussi du congé paternité. Il faut que le papa et la maman se partagent ce temps-là et soient en tout cas ensemble à la maison les premiers mois, parce que c'est trop vulnérabilisant. Et surtout, arrêter les crèches collectives où il y a 20 bébés qui pleurent dans la section. C'est inhumain, en fait. Pour l'avoir vécu, c'est vraiment très inhumain. Et faire des ponts. Par exemple, on pourrait commencer avec un congé mat long, et vers un an, mettre l'enfant en crèche, mais ce serait une petite collectivité, vous voyez, où il serait 10, 12 maximum par section, genre
comme dans les micro-crèches, hein. Oui, voilà.
Voilà, sauf que ça coûte cher, une micro-crèche, hein. Faut payer, hein. Voilà, ce serait ça idéalement. Genre, à la maison, et après, pouf, il passe en micro-crèche, à la rigueur, vers un an, ou alors chez la sœur maternelle, ça peut être bien aussi, mais en tout cas, pas de crèche les tout petits. Mais cela dit, j'ai eu quand même les félicitations d'Adrien Taquet pour ma BD. Donc, nous sommes pas loin.
Ça, non, mais c'est génial. Donc, ça veut dire qu'il l'a lu, ça veut dire qu'elle a résonné en lui.
Je sais pas, entièrement, j'espère qu'il l'a lu. En tout cas, c'est très honoré.
Ah, mais il y a de quoi. En tout cas, c'est super. Et encore une fois, cette BD est tout simplement, elle est fondamentale, elle est fondatrice, et en plus, elle fait du bien. Donc, ça ne m'étonne pas un seul instant. C'est fou parce que ce que vous dites, finalement, ce que vous préconisez existe déjà dans d'autres pays et sans avoir à aller trop loin, c'est ce que mettent en place en fait les pays nordiques. Comme vous dites, ce congé parental que deux parents peuvent se partager sur 3 ans. Et derrière, en effet, des petites structures qui prennent le relais dans des communautés de 10 à 15, je crois, enfants.
C'est super, c'est ça.
Ça existe. Après, comme vous dites, c'est aussi une question de moyens et la question va être, est-ce qu'on est capable, en effet, d'allouer ces moyens au début de la vie?
C'est une question de choix politique, clairement. Mais dans ces pays nordiques, ils sont beaucoup plus tournés vers la petite enfance. Et ils voient bien qu'économiquement parlant, c'est plus rentable. Enfin, chaque investissement fait vers la petite enfance va avoir des répercussions positives sur le chômage, la délinquance, la criminalité. Parce qu'effectivement, c'est là où beaucoup de choses se posent quand même. Donc, mais bon, dans notre politique, je pense qu'on est plus dans une économie à court terme qu'à long terme.
Donc, c'est intéressant de le voir sous cet angle-là. J'ai l'une de mes amies qui est mariée à un Norvégien et qui me disait, il n'y a pas très longtemps, c'est fou comme en France, en fait, on est capable d'investir pour l'exploration spatiale et comme on n'est pas capable, justement, d'allouer les mêmes fonds au début de la vie, là où finalement tout se joue, là où l'avenir, finalement, d'une société se pose. Et c'est vrai que de le voir aussi sous cet angle, donc comme vous le disiez, cette logique de court terme, long terme, mais aussi sous cet angle de là où on met finalement les sous, là où on met nos efforts... Ça change tout.
Ouais, c'est fou. C'est moins prestigieux, je pense, la petite enfance. C'est vraiment un métier qui est dévalorisé, qui est sous-estimé. On parle récemment des 1000 premiers jours, donc il y a un petit peu de boulot qui se fait à ce niveau-là, mais ça reste très pauvre par rapport à nos voisins, effectivement. C'est moins prestigieux, en fait, je pense que, effectivement.
Mais pourquoi? Comment vous vous l'expliquez? Est-ce que vous avez une explication à cette dévalorisation des métiers de la petite enfance? Parce que, comme vous le dites, il suffit de voir aussi combien est rémunéré quelqu'un qui, que ce soit une puéricultrice ou, je veux dire, c'est vrai que c'est ahurissant.
C'est honteux. Enfin, c'est par rapport à la charge de travail, la fatigue, que c'est l'importance du rôle, en fait.
Exactement. Le service rendu, que ce soit aux parents, à l'enfant ou à la société. Est-ce que vous avez une explication?
Non, je sais pas. C'est vrai que c'est une vraie question. Pourquoi est-ce qu'en France, on a cette mésestime, en fait, du petit, je sais pas. Même les formations des professionnels sont très courtes au regard de leur responsabilité énorme, en fait. On devrait mettre j'avais lu un auteur, je ne sais plus qui c'est, qui disait justement que plus on gère des enfants jeunes, plus on devrait avoir une rémunération élevée et plus on devrait avoir une formation élevée. Et à l'inverse, les profs de fac qui gèrent des ados de... des individus de 20, 25 ans, bah, c'est beaucoup moins impactant. On s'en fout presque. Vous voyez, c'est pas ça qui va les construire vraiment. On se construit vraiment dans la petite enfance. Donc, on devrait vraiment inverser, vous voyez, ce rapport aux études et à la rémunération. C'est super important. Vraiment.
Pourvu qu'on vous entende. Pourvu que les prochains soient en effet capables peut-être d'avoir déjà conscience de cela ou en tout cas d'aller chercher l'information qui leur permettra d'avoir cette conscience-là.
Oui, j'espère tellement.
Allez. Espérons-le tous, croisons les doigts et tout ce qu'on peut d'autre. Pour conclure, Héloïse, vous nous le disiez, on se le disait même en début d'entretien, vous êtes vous-même maman. Alors, j'aimerais savoir ce que l'arrivée de vos enfants a changé à votre manière de pratiquer votre métier. Est-ce que déjà, ça a changé quelque chose? Et si oui, quoi? Qu'est-ce que vos petits, finalement, vous ont appris?
Alors, je dirais que je me suis pris une vraie claque. Devenir parent, c'est enfin vraiment, en plus ma fille, comme je disais, un tempérament très réactif, donc je me suis vraiment, c'était vraiment une apocalypse, en fait. Et en plus on disait oui, mais quand même, enfin je faisais une thèse sur les émotions, donc j'étais quand même censée être compétente et je me sentais vraiment démunie, incompétente, à pleurer beaucoup. Je disais mais je sais plus quoi faire. Donc vraiment il y a ce côté, en fait, on peut être professionnel, vraiment expert, et moi j'ai quand même un degré d'expertise qui est assez important sur la toute petite enfant, et être complètement paumé en tant que parent, vraiment. On n'est pas la même personne, en fait. Il y a le côté intellectuel, il y a le côté émotionnel, c'est pas la même personne. Donc là, je me suis vraiment pris une claque, donc, et on s'est appris aussi beaucoup d'humilité. Et je pense que depuis que je suis maman, j'ai encore beaucoup plus d'empathie pour les parents qu'avant. J'avais déjà beaucoup d'empathie pour les parents, mais là, ça s'est accru. Et quelque part, maintenant, j'ai un côté aussi, le fait de devenir parent, j'ai un côté obsessionnel de vouloir appliquer les concepts que je découvre dans la recherche. Et ça, c'est une pression de dingue que je n'aurais pas si je n'étais pas parent, bien évidemment. Mais voilà, donc il y a du bien, il y a du moins bien. Ça m'a aidé et pas aidé en même temps. Un petit peu les deux, je dirais.
C'est beau, je vous remercie vraiment du temps que vous avez pris à mes côtés, de tout ce que vous avez livré avec autant de finesse, de générosité et d'humilité. Continuez en tout cas vos beaux combats, continuez à écrire. On a hâte de découvrir la suite de Ma vie de bébé. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt, Héloïse.
Un grand plaisir, à très bientôt.
Vous n'avez pas eu comme la sensation de vous faufiler dans la tête et le corps de votre bébé ? Si vous avez envie de continuer à mieux saisir les subtilités de vos enfants en mode décontracté, plongez-vous dans les ouvrages d'Héloïse. Je vous promets des moments aussi éclairants qu'hilarants. En attendant, j'espère que cette discussion vous aura guidé, soulagé et rassuré. J'espère surtout qu'elle vous aura donné toute la confiance que vous méritez en vos intuitions de parents. J'espère enfin qu'elle vous aura révélé quelques clés sur le fonctionnement de ce petit être qui ne compte que sur vous et qu'elle vous aura confirmé que c'est déjà immense de faire comme vous pouvez. À bientôt pour un nouveau moment rempli d'inouïs.